L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Jabbar.
Le rôle important joué par les Arabes sur la scène du monde, la rapidité de leur conquête et l'étendue de leur domination ont toujours suscité un vif intérêt quant aux moyens qui leur ont servi à obtenir de si brillants succès. À cette époque de l'âge d'or des sciences arabes, on peut parler d'art militaire et d'art de la guerre. Et là aussi, ils ont emprunté aux autres civilisations avant d'améliorer les procédés, comme par exemple la poudre à canon venue de Chine. La Bibliothèque nationale de Paris possède plusieurs traités qui datent du XIIIe siècle. Le principal porte le numéro 1127 de l'ancien fonds arabe et a pour titre « Traité de l'art militaire et des machines de guerre ». Au musée asiatique de Saint-Pétersbourg, on trouve un recueil sur les diverses branches de l'art militaire qui date de la moitié du XIVe siècle et où l'on traite là de la poudre à canon et des armes à feu. Les armes offensives utilisées par les armées arabes étaient l'épée, le sabre, la lance, la massue, la fronde, l'arc, l'arbalète et la catapulte. Et la construction de l'arc devint un art, tout comme l'équitation et l'habileté de ces fameux cavaliers arabes. Un écrivain anonyme dit même que l'art de manier la bride du cheval forme les 23-24e de l'art de la guerre. Ce soir, rien de belliqueux en soi, au contraire, c'est une autre facette du génie des sciences arabes avec les technologies militaires qu'ils ont mis au point. Professeur Jabbar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on part pas à la guerre, mais on va gagner les batailles de la connaissance du génie des Arabes.
D'accord.
Très bien. Alors, est-ce qu'on peut connaître, disons, l'histoire des technologies militaires, alors qu'en général et en principe, elles sont tenues secrètes?
Et oui, vous avez tout à fait raison. Cela dit, on a fini quand même par percer ces secrets. Ou alors, tout simplement, les intellectuels musulmans étaient tellement curieux qu'ils se sont dit pourquoi ce domaine resterait à l'écart de ce qu'on appelle la culture générale. Parce que c'est toujours mu par cette curiosité de savoir ce qui s'est fait dans tel ou tel domaine. Et puis, il y a eu quand même des ouvrages techniques qui ont été réalisés qui ne contenaient pas des secrets, mais qui étaient censés être des manuels pour former les soldats. Et là, bon, il n'est pas nécessaire de garder des secrets. Les manuels de la stratégie, de la logistique. Par contre, les secrets concernaient la fabrication de telle ou telle arme, pour garder évidemment la puissance militaire. Mais sinon, on ne pourrait pas comprendre pourquoi, dès la fin du 8e siècle, des ouvrages sont signalés comme étant des ouvrages spécialisés sur l'art de la guerre, sur les différents aspects que nous allons évoquer. Et puis du 8e siècle jusqu'au 16e, 17e siècle, à chaque siècle, une fournée d'ouvrages, apparemment pas de gens littéraires, mais apparemment, ce sont des anciens ingénieurs militaires, anciens officiers, donc qui avaient le métier des armes.
Les techniciens et techniciens, qui avaient la pratique.
Voilà, et qui ont éprouvé le besoin d'écrire un livre pour aider les nouvelles générations de militaires, ou bien les officiers, ou bien les chefs, ou bien pour se faire bien voir devant un chef politique qui, évidemment, avait besoin d'avoir les connaissances pour gérer son armée. On ne connaît pas toutes les raisons, mais les hypothèses là sont tout à fait raisonnables.
Alors, je suppose que là aussi, la technologie militaire de l'Empire musulman a puisé dans les savoirs anciens. Ça paraît logique aussi.
Alors, c'est pas automatique, parce que comme c'est un savoir-faire, un ensemble de techniques, on peut concevoir qu'on ait acquis tout ça par l'espionnage. On peut concevoir qu'on ait acquis ça à partir de transfuges. On arrête des prisonniers, on les interroge. S'ils sont un peu durs à cuire, on les asticote un peu. C'est arrivé, malheureusement. Et puis, ils donnent l'information sur les secrets qui leur ont permis, d'ailleurs, de gagner peut-être des batailles, du moins l'armée dont ils dépendaient. Et c'est comme ça que, bon, on reconstitue un peu les secrets des armées ennemies. Sinon, on ne comprend pas pourquoi des techniques militaires qui sont vraiment attestées dans telle ou telle armée avant l'islam, chez les Persans, chez les Byzantins, chez les Visigoths, comme par hasard, on les retrouve dans les armées musulmanes après, et même améliorées. Et donc, d'une manière précise, les spécialistes ont cherché si réellement il y avait des livres qui ont été écrits avec des auteurs précis, et puis s'il y a des livres qui nous sont parvenus. Les biographes, déjà Ibn Nadim, le grand biographe du Xe siècle, signalent des ouvrages anonymes persans, qui avaient donc été écrits avant l'islam, et qui vont être traduits en arabe. Le premier s'appelle « Livre sur la frappe avec les Sawalija ». Les Sawalija, c'est en fait une arme de cette époque-là. Un deuxième anonyme est intitulé « Livre sur la nature des guerres et les méthodes des cavaliers ». Donc là, c'est plutôt un livre de logistique. Vous voyez, c'est différent quand même. Un autre anonyme s'appelle, le titre est long, hein, « Livre sur les méthodes des guerres, la conquête des forteresses et des villes, la réalisation d'embuscades, l'orientation des espions et des éclaireurs et la réalisation de la logistique. » C'est tout un programme.
Ah oui, c'est une armée à lui tout seul, ce livre.
Absolument, absolument. Ça doit être un ensemble de manuels. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les musulmans, dans leur lancée, se sont même intéressés aux techniques militaires indiennes. Et nous avons la preuve que des auteurs indiens ont été traduits. Il y a un monsieur qui s'appelle Bajar Lehendi qui a écrit un livre qui s'appelle « Livre sur la réalisation des épées, leur description et leur conception ». Alors, ça confirme une autre information qu'on a eue. C'est que les historiens disent qu'il y avait le commerce des épées. C'est-à-dire qu'on allait chercher des épées toutes faites. Donc, on importait une sorte de technologie. Les épées qui étaient une très bonne marque, excellente, reconnue par les militaires en Inde. Parce qu'ils avaient de bons métaux, parce qu'ils avaient de bons artisans. Et puis, on est encore à l'époque, 8e, 9e siècle, où il n'y a pas encore eu la forte tradition des fabricants et des concepteurs de sabres, d'épées, de dagues, etc., etc.
Alors, j'ai lu quelque part qu'un certain problème s'est posé aux Arabes parce qu'ils n'avaient pas assez de fer dans leur contrée.
Au début. Mais nous avons des informations maintenant. Il y a eu des études, il y a même des ouvrages de synthèse aujourd'hui. En particulier, Maurice Lombard a écrit un livre très intéressant sur les industries en pays d'islam. Et il montre que très vite, dès le 9e siècle, les États, l'État musulman d'abord, puis les autres États issus de l'État central, se sont préoccupés très vite pour des raisons stratégiques, vous vous en doutez.
C'est clair, oui.
De ce qui peut alimenter les armées, en particulier tout ce qui est métal. Pour les bateaux, pour les armes, les sabres, etc., pour les canons. Non seulement il fallait aller chercher le fer, mais il fallait travailler le fer. Et donc toute une tradition de technologie du travail du fer a été développée à tel point que dès le 9e siècle, fin du 9e, un philosophe, pourtant on ne peut pas le soupçonner d'être belliqueux, le philosophe, Al-Kindi, qu'on appelle le philosophe des Arabes.
Oui.
Eh bien ce monsieur, en fait il ne fait que refléter une situation, une préoccupation et un besoin. Il a fait un livre spécial pour étudier la manière de fabriquer des sabres et les métaux qu'il est nécessaire d'obtenir et les alliages pour pouvoir avoir des sabres de telle ou telle qualité. Eh bien, cette épître nous est parvenue. Elle a été étudiée et il y a un article qui a été publié il y a quelques années dans une revue qui s'appelle la Revue d'Histoire des Sciences de Halab. En plus des ouvrages indiens, et il y en a plusieurs ouvrages indiens, j'ai cité un seul, hein, mais c'est pour ne pas ennuyer l'auditoire, eh bien, il y a même des ouvrages grecs, c'est-à-dire des ouvrages sur les technologies militaires byzantines, mais écrits en grec. Et puis, parmi ces ouvrages, il y a une tradition qui va se développer chez les musulmans, mais on ne sait pas si ça aboutit à des applications militaires. Toujours est-il que l'origine était une préoccupation militaire. Eh bien, c'était des ouvrages sur ce qu'on appelait les miroirs ardents, c'est-à-dire des miroirs suffisamment sophistiqués, suffisamment grands, bien manipulés, pour pouvoir brûler les bateaux ennemis, brûler les forteresses ennemies, à condition de bien concentrer les rayons du soleil et de les focaliser vers la cible.
C'est un peu l'ancêtre du rayon laser aujourd'hui.
C'est une sorte de rayon solaire. Et c'est le rayon solaire avant le rayon laser, mais un rayon puissant. Et donc, on va traduire des livres grecs d'Anthémius de Tral, qui s'appelle tout simplement « Livre sur les miroirs ardents ». D'ailleurs, en arabe, le titre correspond, hein, c'est « El Maraya al Muhriqa ». Il y a le grand livre de Dioclès, quand même, livre aussi sur les miroirs ardents. Et il y a toute une tradition arabe qui va se développer pendant le 9e siècle, 10e, 11e, jusqu'à Ibn al-Haytham et au-delà, le grand physicien, pour concevoir d'abord théoriquement, c'est-à-dire quelles sont les meilleures courbes, quelles sont les meilleures surfaces, donc à partir d'une courbe on fait une surface, qui permettent de réfléchir les rayons du soleil avec la puissance la plus grande. Eh bien, on a étudié, on a considéré qu'il y a la sphère, d'accord, donc on prend comme ça un miroir sphérique, mais on a considéré que les miroirs paraboliques, c'était pas mal non plus. Les miroirs hyperboliques, c'était pas mal non plus. On a même considéré que, au lieu de faire réfléchir les rayons solaires, parce que là, il faut étudier géométriquement pour voir comment faire rencontrer tous les rayons en un seul faisceau. Là, ce sont des études théoriques basées sur un livre de mathématiques puissant du 3e siècle avant Jésus-Christ, d'Apollonius. Alors, à un moment donné, il y a même eu un tournant. Toujours peut-être sollicité par les pouvoirs militaires, il y a un certain Ibn Sahl, grand spécialiste de la physique, qui s'est dit, mais pourquoi toujours brûler les bateaux en faisant réfléchir le rayon? Ici, on le faisait réfracter. C'est-à-dire que le rayon ne réfléchit pas sur un miroir, mais il passe dans une boule qui contient de l'eau ou quelque chose comme ça, il se réfracte. Et ensuite, il repasse vers la cible. Et donc, la réfraction est un phénomène difficile, a été étudié par Ibn Laytham, et plus tard par les Européens, jusqu'à obtenir les fameuses lois de Descartes, etc. Eh bien, avant d'obtenir ces lois de Descartes, on a quand même essayé de bricoler, ingénieusement, pour essayer de voir si, d'abord avec les miroirs, puis ensuite avec les boules de feu, on peut brûler les bateaux.
Ils y sont arrivés ?
Alors, nous n'avons pas encore de documents, en dehors les documents théoriques, les livres théoriques, nous les avons. Avec les démonstrations mathématiques, tout y est, absolument. Les schémas et tout. De là à trouver des ouvrages sur l'application de ces théories, bien vous savez, parfois, le passage de la théorie à la pratique bien, ne se fait pas automatiquement. Moi, j'ai un exemple d'un compas qui s'appelle le compas parfait. Les mathématiciens l'ont conçu. Il marche très bien sur le plan théorique. Il permet non seulement de tracer des cercles, mais de tracer des courbes beaucoup plus compliquées, les hyperboles, les ellipses et les paraboles, mais à condition que le compas ait trois mouvements. On peut contrôler deux mouvements, mais le troisième mouvement, il faut que le stylo qui trace, il faut qu'il bouge en même temps que vous tournez le compas. Et pour qu'il bouge en même temps que vous tournez le compas, eh bien, ils n'ont pas trouvé l'astuce technique du ressort ou quoi que ce soit. Donc théoriquement, ça marche.
Mais à l'application, c'est un autre domaine.
Voilà. Ouais. Et donc, la technologie est liée à la science, mais parfois les passages de la science théorique à la technologie sont très difficiles et on a des inventions qui n'arrivent pas à être appliquées. Et ça, il faut que l'auditoire le sache, parce que le savoir, ce n'est pas si facile que ça.
Pratiquement, l'art de la technologie militaire dans l'Empire musulman est passé par plusieurs phases.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a eu d'abord la phase, évidemment, héroïque de la période du prophète, de son vivant, puisque de 622 à 632, pendant ces 10 années, capitales, cruciales, eh bien, il n'a pas fait que prêcher la bonne parole, il n'a pas fait que transmettre le message de Dieu. Il a eu à combattre physiquement, militairement des ennemis. Et il a constitué une armée, donc la première armée musulmane, a été dirigé par les premiers chefs qui vont devenir plus tard les fameux généraux. Ce n'est pas par hasard que le fameux grand général qui va réussir les conquêtes, c'est Khalid ibn al-Walid, le fameux, le grand, qui est aussi un très grand personnage. On raconte que lorsque le calife lui a ordonné de revenir à Médine et de laisser son commandement à son aide, eh bien, il a exécuté les ordres. C'est un très bel exemple du corps militaire qui obéit au doigt et à l'œil aux politiques, au pouvoir politique. On le donne comme exemple de quelqu'un qui n'a jamais été un insoumis au pouvoir politique. Quelqu'un qui a toujours fait son devoir et qui était un très grand technicien, un stratège de la guerre. Mais qui aussi avait un respect absolument incroyable de ce que c'est que le pouvoir. Effectivement, le pouvoir était entre les mains des califes. Mais c'était la belle époque.
Oui, c'était la belle époque. Alors, ces différentes phases.
Première phase, donc la période du prophète. On sait que l'armée du prophète a fait ce qu'elle pouvait pour d'abord se défendre parce qu'elle était assiégée à un moment donné. Ils ont appris à creuser des fossés, à faire des remparts et poursuivre des ennemis. On raconte que le premier dispensaire des armées musulmanes a été utilisé déjà avec l'armée du prophète.
Oui.
On raconte même que ce sont des femmes qui soignaient les militaires parce qu'elles voulaient aider aussi. C'était les premières infirmières. Après la mort du prophète, il y a eu la phase de conquête. Là, nous savons qu'il y avait deux types d'armes de corps d'armée qui ont participé aux conquêtes. Il y a la cavalerie, avec le fameux général Khalid ibn Walid, mais il y avait l'infanterie. Alors, il y avait des batailles qui ont été gagnées par la cavalerie et d'autres batailles qui ont été gagnées par l'infanterie et grâce à l'infanterie. Et puis après, ce sont ces deux grandes orientations, cavalerie et infanterie, qui vont constituer les armées musulmanes, même lorsque les armées ne seront plus une armée musulmane du calife, mais les armées des différents pouvoirs qui vont contester le califat. Et puis, la troisième tendance, la troisième orientation, elle est nouvelle. Elle va apparaître à un moment donné. C'est effectivement la marine de guerre. Pendant longtemps, on a cru que les musulmans n'avaient pas de marine de guerre. Ils avaient une piètre marine de guerre, parce qu'on dit toujours que les Arabes n'ont pas le pied marin. Alors que l'histoire montre que les plus grandes flottes, les plus sophistiquées, les plus puissantes, ont été construites et ont été menées et dirigées et ont livré des batailles mémorables dans l'Empire musulman dès la fin du 8e siècle.
Avant qu'on y arrive, est-ce qu'on peut dater les premières publications arabes sur l'art de la guerre et sur ses techniques et les technologies militaires de l'époque ?
À notre connaissance, il n'y a pas eu d'écrits pendant la période du prophète. Il y a les témoignages qui sont arrivés, qu'on retrouve dans les hadiths. Et ensuite, chez les chroniqueurs, Ashab al-Akhbar, Ikhbariyoun, on les appelle. Les califes Omeyyades en particulier, puis le premier calife abbasside, se faisaient lire ou lisaient des manuels de guerre. Mais en fait, ce n'était pas nécessairement écrit en arabe. Peut-être que ce sont des manuels persans, qui ont été traduits juste pour le calife, et donc ils ne circulaient pas. Mais les vrais premiers ouvrages vont apparaître dès le dernier tiers du 8e siècle.
Très vite.
Alors on ne sait pas si ces livres ont circulé, mais toujours est-il que nous avons les noms des auteurs. Il n'y a plus d'anonymes là, comme tout à l'heure. Nous avons des titres. Et je commence par le premier, mais c'est vraiment le hasard. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il porte mon nom. C'est Abdel Jabbar.
Vous avez retrouvé un ancêtre.
J'espère que c'est mon ancêtre quand même. Parce que moi, je serais très honoré qu'un des premiers grands généraux musulmans soit Abdel Jabbar. Mais je ne sais pas s'il a été militaire. Toujours est-il qu'il est de l'époque d'Al-Mansour quand même. Le premier calife abbasside qui a régné de 754 à 775. Il a écrit un livre qui s'appelle « Livre sur les méthodes de guerre et sur la configuration de l'armée ». Vous voyez, c'est la stratégie et la logistique. Il y a un autre qui s'appelle Al-Harthami. Lui, il a écrit un livre pour Al-Ma'mun. Donc l'arrière-petit-fils de Al-Mansour, il a régné de 813 à 833. Il a écrit un livre sur les procédés de guerre. Il y en a un qui s'appelle Hashmiti qui a écrit un livre sur la cavalerie. Donc parfois c'est précis, la cavalerie, l'infanterie. Parfois c'est vague. Un anonyme qui a écrit un livre sur les épées. Déjà, vous voyez, nous sommes au 9e siècle, on s'intéresse à toutes les techniques de fabrication des épées. Ben Khafif a écrit un livre sur les béliers, les mangonos, c'est-à-dire les catapultes, les ruses et les stratagèmes, sous-entendu, du siège.
Oui,
c'est un livre spécialisé, il est perdu, tous ces livres sont perdus.
Dommage.
Nous n'avons que les titres, c'est dommage. Si on les avait, on pourrait écrire l'évolution des techniques militaires.
Ah oui, c'est clair.
Mais là, malheureusement, on est un peu handicapé. Ce livre sur les béliers, les mangonos, les ruses et les stratagèmes, bien, manifestement, il a été écrit pour l'infanterie. Il y a un anonyme qui a écrit un livre sur l'utilisation du feu, du pétrole et des lance-flammes dans les guerres. C'est fantastique.
Des lance-flammes,
c'est fantastique ça. Et donc effectivement, nous savons, par ailleurs, nous avons d'autres témoignages, on n'est pas obligé de croire ces titres, parce que ça se recoupe. Nous avons des témoignages disant que dès la fin du 8e siècle, soit par espionnage, soit parce que les techniques étaient déjà connues, dans le croissant fertile, les armées arabes étaient munies de lance-flammes, parce qu'ils utilisaient ce qu'on appelle le feu grégeois. Le secret aurait été volé des armées byzantines, et en tout cas, qui utilisaient le pétrole qui affleurait sur le sol, il ne fallait pas le creuser, dans la région de la mer Caspienne, dans la région d'Irak, etc. Donc il suffisait de purifier un peu le pétrole et de l'utiliser pour ses armes de guerre, ses premières armes de guerre avec du pétrole. Et puis il y a d'autres ouvrages. Là, nous avons dépassé le 10e siècle. Nous arrivons donc maintenant au 11e, 12e siècle.
Et on sent le niveau de sophistication de ces armes.
Tout à fait. J'aurais dû préciser tout à l'heure que là, on avance dans le temps. Harawi est du 12e. Il a écrit un livre sur le rappel des procédés de la guerre. Un autre du même siècle, Moudabbir, a écrit un livre sur les règles de conduite de la guerre et de la bravoure. Là, vous voyez, il y a une dimension qui n'a rien à voir avec la technique, ni avec la logistique, c'est la bravoure. On peut considérer ça comme étant aussi, disons, l'action psychologique de l'armée. C'est une dimension en plus. Comment préparer le soldat pour lui inculquer le courage, la bravoure, la valeur, etc., pour pouvoir aller à la guerre. Il ne suffit pas d'être ingénieux.
Il faut que les hommes suivent aussi.
Voilà, il faut qu'ils aient des motivations psychologiques. Alors là, on rentre dans des choses aussi spécialisées. Il y a un certain Ramah. Vous remarquez, Ramah, en arabe, ça veut dire celui qui tire les flèches.
Oui.
Donc il est clair, il est du 12e siècle, il est clair que ce monsieur a été sûrement un officier supérieur, dirigeant peut-être une partie de la cavalerie, donc dirigeant peut-être un corps d'armée spécialiste des arcs et des arbalètes. À son nom seulement, c'est un nom de métier. Il a écrit un livre qui s'appelle « Livre de la cavalerie pour la guerre sainte ». Un autre a écrit « Instruction des maîtres de l'adresse sur les méthodes de salut dans les guerres ». Un autre a écrit « Le stade ultime de l'interrogation et du désir d'en savoir plus sur l'enseignement des exercices de cavalerie ». Les titres sont très jolis, très pompeux. Nous sommes déjà au 14e siècle. Et le dernier, dont le livre nous est parvenu, c'est Zarad Kashi.
Oui.
Il s'appelle « Le livre élégant sur les mangonos ». C'est-à-dire « Le livre élégant sur les catapultes ».
Oui.
Alors ce qui est amusant, c'est que les catapultes, c'est des immenses bêtes, horribles, qui sont manipulées avec 100 personnes. Et il éprouve le besoin de mettre un titre, le livre élégant sur les catapultes. C'est de l'humour, ça.
Oui, c'est de l'humour et c'est aussi une finesse pour essayer de rendre, j'allais dire, plus acceptable.
En arabe, il dit « Al-aniq fil manaj aniq ».
Ah oui, alors
il y a
là,
du sedge, il y a de la poésie.
Et voilà, et puis il y a de la rime aussi.
Absolument.
Alors, je suppose évidemment que tous les thèmes traités étaient en rapport avec les corps d'armée ou avec les différentes techniques de la guerre.
Alors, certains thèmes étaient vraiment spécialisés pour la cavalerie, j'en ai donné quelques-uns, d'autres pour l'infanterie, d'autres étaient des thèmes qui englobaient le tout puisqu'il s'agissait de la logistique en général, de la manière de faire la guerre, des stratégies et des stratagèmes.
Oui.
Et surtout, il y avait des livres de formation militaire. Ça, c'est important. Ne croyez pas que ces gens-là, c'était comme du temps du 7e siècle. Ce sont des combattants de la foi, ils n'avaient que leur foi, leur courage, leur bravoure, une petite épée, et on y va. De plus en plus, les soldats vont être des soldats de métier.
Le manuel du parfait petit soldat, quoi.
Absolument, et donc oui. Il y avait des manuels, des ouvrages, et nous avons des manuels avec des schémas très précis, et avec des exercices et des stages éreintants, absolument bien codés, réglés au millimètre près, avec des rendez-vous bien précis, avec des simulations de guerre, simulations d'embuscades, de batailles, pour pouvoir former le soldat en temps de paix et pour qu'il soit prêt quand il y a une guerre. Parce oui. que l'Empire, à un moment donné, il ne décidait plus de la guerre parce que il avait déjà conquis. Sa préoccupation, c'était de protéger le territoire. On mettait des sentinelles, on mettait des bateaux. Mais ce qu'il ne décidait pas, c'est la guerre que provoquaient les autres. Contre
oui,
l'Empire.
Effectivement, oui.
Donc il fallait préparer.
Pour laquelle il fallait pouvoir réagir vite et bien.
Donc il fallait, comme aujourd'hui, préparer oui. pendant des années et des années. C'est pour ça que les armées coûtent cher. Les musulmans, depuis le 9e siècle, nous ont montré, effectivement, que tout État qui se respecte doit se défendre et donc doit investir beaucoup pour une armée qui donne l'impression uniquement de manger, de s'habiller et de ne rien faire. Mais en fait, pendant la paix, ils préparent la guerre.
C'est toujours en temps de paix qu'on prépare la guerre voilà. et c'est pendant la guerre qu'on va préparer la paix.
Voilà.
Ça, c'est malheureusement connu. Alors, les différents corps d'armée, vous les avez évoqués, l'infanterie, la cavalerie, la marine. Et quelles sont les armes utilisées dans chacun corps d'armée? Chacun pour leur utilisation propre, avec des techniques propres.
Si on prend par exemple la cavalerie, nous avons la liste vraiment des armes, des consommables, je dirais aussi, qui devaient être à la disposition du bon soldat. Il y a évidemment le sabre, il y a l'arc. L'arc léger, très léger, parce qu'il y a plusieurs types d'arcs. Il y a la lance. Alors, il y a des lances très très légères, qu'on lance comme ça, mais il y a des lances qui sont fumigènes. Donc, on lance pour brûler l'ennemi. Elles portent du pétrole, etc. Et donc, on les allume et on les lance. Il y a les boucliers, bien sûr. Tout ça, évidemment, sont accompagnés toujours avec des noms arabes. Mm-hmm. Donc, il y a toute une terminologie de cette technologie qui va être codée. Il y a la masse. On l'appelle Debous.
La massue, ce qu'on
la massue.
A...
Oui, d'où le mot en arabe, en Algérie, Debous.
Ah, d'accord.
Oui, oui. Il y a le javelot, il y a le poignard, il y a le casque, mais le casque très très fin. Alors nous avons des casques qui nous sont parvenus, qui sont d'une finesse incroyable, qui ne sont pas des casques, c'est-à-dire que vous pouvez les plier, vous pouvez les chiffonner, parce qu'ils sont faits avec des petites mailles, comme les cottes de mailles.
Oui.
Mais plus fins que les cottes de mailles, très 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 fin, sauf le sommet, hein, à tel point que quand vous les mettez, vous sentez...
Ça épouse pratiquement les contours du visage.
Voilà, et c'est doux, et c'est léger, et parfois, évidemment, il faut se prothéser le visage. Donc, ils avaient adapté à la cavalerie, alors que plus tard, les cavaliers européens, les croisés, quand ils arrivent au XIIe siècle en Palestine, pour conquérir Jérusalem, on raconte que c'est Oussama ibn Mulqidh, qui était un prince très cultivé, qui a écrit un livre superbe que les auditeurs doivent lire, qui existe en arabe. Qui a été traduit même en français, et qui dit « Mais on a vu des armées arriver, des cavaliers, qui portaient des dizaines de kilos d'armure, mais on s'est regardé, mais on s'est dit « Mais ils ne vont pas aller très loin, ceux-là !» Et effectivement, ils ne sont pas allés très loin.
C'est vrai que c'était horriblement lourd.
C'était adapté à leur
oui,
terre du Nord.
Oui, oui, oui.
Ils arrivent dans les déserts d'Anatolie, dans les déserts de Syrie. Mais
avec les chaleurs excessives qu'il fait là-bas.
Mais ils ont brûlé avant d'arriver.
Oula.
Et donc, vous voyez, les armées musulmanes, non seulement... avaient de l'ingéniosité, mais ils avaient un souci d'adaptation.
Alors, les armes utilisées ?
Évidemment, l'infanterie, c'est le plus gros morceau. Parce que de plus en plus, c'est l'infanterie qui va prendre de l'importance. Et alors, pour l'infanterie, quand on est conquérant, pour l'offensive, il y a les engins de siège. Il y a la catapulte, Mangono, Manjanir. Cette catapulte, c'est un immense objet en bois et en métal, avec un levier.
Au bout du levier, un panier. Oui.
Et on met des gros cailloux ou des boulets. Et derrière, des dizaines et des dizaines d'hommes vont faire baisser le levier et puis ils le lâchent. Et par le système de levier, il envoie le boulet. Et alors, évidemment, pour que ça soit efficace, il faut que ce soit de gros boulets pour détruire les murs, mais aussi pour terroriser comme l'ennemi, il faut quand même pas un catapulte, deux, dix. Il faut des dizaines et des dizaines. Donc, il y a des armées qui entourent un château, par exemple, avec 100 catapultes. Alors, imaginez, pour amener ces catapultes, oui, c'est des centaines d'hommes. Ou alors, il faut être ingénieux, il faut mettre des roues. Alors, donc, ils ont utilisé les roues. Et donc, on dit toujours que les Arabes et les musulmans, ce sont uniquement des cavaliers. Ils ont utilisé les chameaux, les chevaux, les mules, mais nécessité oblige. Nous savons aujourd'hui que certaines régions connaissaient la charrette. Ben, ils ont utilisé la technologie locale pour en faire un élément important pour l'armée. Donc, on pouvait déplacer des masses comme ça, absolument incroyables. Ensuite, il fallait déplacer les échelles. Ensuite, il fallait déplacer les fantassins, mais les déplacer dans des chars d'assaut.
Des chars d'assaut.
Ben oui.
Il y avait des chars d'assaut.
Oui, parce qu'il faut les protéger. Les fantassins, quand ils arrivent à la forteresse, s'ils sont dégarnis comme ça,
oui,
ils sont complètement détruits, soit par le feu, oui, soit par les boulets,
les flèches,
soit par
etc.,
les flèches, etc.
Oui.
Donc, ils sont mis dans une sorte de char, de gros chars.
Avec des roues et tout.
Oui, absolument. Et qui sont poussés ou tirés. Et à un moment donné, ils montent sur les échelles. Et puis, l'effet du nombre, l'effet de la surprise aussi, l'effet aussi d'autres techniques. Pendant ce temps-là, évidemment, on fait peur à l'ennemi qui est dans la forteresse en envoyant des fusées, des scuds. Par exemple, il y avait des lanceurs de fusées, des sortes d'arcs spécialisés, parce qu'il n'y avait pas encore le canon. Et donc, au lieu de lancer un boulet, on lance une fusée qui, quand elle arrive sur le château, elle explose. Et là, qu'est-ce qui sort? C'est absolument étonnant. Il sort soit un projectile style grenade défensive qui tue les gens. Et donc, ils savaient ce que c'était que des grenades.
Donc, l'explosif.
Oui. Mais ils savaient ce que c'était que les grenades biologiques.
C'est-à-dire biologiques.
Mais biologique, ça veut dire que lorsque la grenade explose, ce n'est pas de la poudre, ce n'est pas des flammes, mais ce sont des animaux, des bestiaux qui font peur ou qui mordent, comme les scorpions, comme les serpents. Absolument.
Oulala.
Ou alors, à ce moment-là, des fusées un peu anti-écologiques, des boules puantes, immenses. Et à ce moment-là...
Ça faisait fuir tout le monde.
Qui empoisonne.
Alors là, c'est une arme bactériologique.
Ah bah oui.
Avant l'heure.
D'une certaine manière. Ils ont même utilisé des pots asphyxiants. Ils ont utilisé des fusées qu'ils lançaient non pas contre les châteaux, mais contre les champs qui entourent les châteaux, qui contenaient les récoltes,
pour
affamer les gens.
Oui, pour
et ce sont
ça.
Des engins incendiaires des récoltes. Ils ont eu une idée absolument diabolique. Ils avaient dressé des chats et des chiens sur lesquels on collait des fusées sous le ventre et qu'on lançait dans les champs pour incendier les récoltes lointaines. On ne pouvait pas approcher les champs qui étaient protégés
par
les soldats.
Tous les moyens sont bons. Hein.
Ça s'appelle les ruses de la guerre. Ah, alors oui. Ça, c'est la première période,
oui,
jusqu'au moment où arrive la période donc, de la découverte du canon et la découverte de la poudre.
Alors, vous m'avez dit le char, les scuds, les fusées, les canons. Ils étaient top de la technologie, là.
Disons, ils étaient les initiateurs. Vous savez, les initiateurs ne maîtrisent pas toujours leur technologie. Après, les gens vont les dépasser. Mais ce sont eux, effectivement, qui, en voulant innover... Prenons un exemple très simple. L'arc. L'arc est vieux comme le monde. Raus. Les Indiens avaient des flèches, les Africains ont des flèches, etc. Mais les flèches, on peut les rendre encore plus sophistiquées. Eh bien, on peut lancer des flèches empoisonnées, des flèches enflammées, des flèches avec des fusées pour exploser. Il y a aussi l'arbalète, qui, elle...
C'est un arc très sophistiqué,
très
mais...
Très lourd.
Oui, très difficile à manier. Il faut une grande dextérité pour utiliser une arbalète. Hein.
La seule flèche pesait 2,5 kg. Pas une flèche pour tuer un soldat, ça aurait coûté très cher. C'est une flèche porteuse, incendiaire. Les militaires sont ingénieux dans les technologies anciennes. Jusqu'au moment où les technologies anciennes sont complètement maîtrisées par les ennemis, alors ils ont eu l'idée d'inventer de nouvelles technologies.
La course aux armements avant l'heure.
C'est absolument la course aux armements. Ils vont jusqu'au stade ultime d'une technologie, mais en innovant quand même. Regardez, l'arc a donné l'arbalète à pied, l'arbalète à tour, Et enfin, l'arbalète a trois arcs. C'est-à-dire que vous mettez une armée d'arbalétiers. Avant, il y avait une centaine lancée.
Une centaine de flèches.
Une centaine de flèches, c'est
là,
pas mal.
Là, c'était
quand même.
Une centaine de soldats, pour trois centaines de flèches.
Alors, il y a à la fois l'importance quantitative et aussi, surtout, l'effet psychologique. Oui. L'ennemi dit, oh là là,
ils sont très nombreux.
Ils sont très, très nombreux. Déjà les premiers, parce qu'on commence par les flèches. Que dire des fantassins, que dire des cavaliers? Ça permet de démoraliser l'ennemi.
Alors, oui. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure des grenades offensives qui éclataient, etc. Ça veut dire qu'ils maîtrisaient l'explosif, puisque de toute façon, ils avaient ramené la poudre à canon de Chine.
Non, je n'avais pas précisé tout à l'heure. Vous faites bien de me poser la question. En fait, les premières fusées qu'ils envoyaient, ce n'étaient pas des grenades, c'était des fusées, hein, des vraies fusées. Et donc, ça fonctionnait au pétrole. Et donc, elles explosaient parce qu'ils ajoutaient peut-être un peu de salpêtre, je ne sais pas très bien, mais ce n'est pas expliqué. En fait, elles s'ouvraient, voilà. Elle s'ouvrait et elle s'enflammait. Ce n'est pas la même chose que l'explosion.
Oui.
L'explosion détruit. Là, ça brûle. C'est pas la même chose.
Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que les armées musulmanes ont su fabriquer les explosifs? Et si oui, donc, ils les auraient utilisés?
Ah oui, ça d'accord, mais à une époque donnée. Alors, on dit qu'à partir du XIIe siècle, nous avons des témoignages disant que des ingénieurs militaires, parce que là, je peux parler de mot ingénieur. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, des chefs politiques, comme Salah ad-Din al-Ayoubi au XIIe siècle, a décidé de créer l'équivalent d'un ministère de la guerre, d'un ministère de la marine. Ah oui, oui. Avec une hiérarchie, avec le chef de la marine. Vous savez d'où vient le mot amiral? Le mot amiral vient de Amir al-Bahr, le prince de la mer. En fait, c'était le nom donné au chef de la marine d'une escadre de musulmanes. Et les Européens, qui comprenaient pas l'arabe, en transcrivant le latin, ça a donné amiral.
Oui.
Qui est toujours le chef, d'ailleurs.
Effectivement, de la marine, de l'armée de mer, en quelque sorte.
Absolument. Et alors, donc, pour revenir à votre question, à partir d'un certain moment, des indications nous parviennent dans des livres datés, comme par hasard, du XIIe siècle, pas avant, qui disent que certaines armées ont su fabriquer des choses qui explosaient. C'est pas qui brûlaient, qui explosaient.
C'est dit comme ça, je vais dire en termes aussi vagues.
Absolument. Et ensuite, qui disait, on a fabriqué des engins qui lançaient des boulets. Alors, je vais vous donner des témoignages précis. D'abord, il faut préciser qu'on a découvert, dans des fouilles archéologiques, des preuves incontestables de ce que je suis en train de dire, indépendamment des témoignages écrits. Après tout, on peut ne pas faire confiance à un chef militaire à la retraite qui raconte ou qui affabule, peut-être, qui enjolive sur l'histoire de son armée. Non, non, là, on a trouvé. Regardez, je vous montre, là, j'ai une belle image. C'est une grenade, une vraie grenade.
Ah oui, ça, c'est grenade explosive.
Du 10e, 11e siècle de l'époque fatimide, on l'a trouvée sous terre.
Oui, elle a bien...
Voilà, et à l'intérieur, il y a de la poudre. Et donc, on a utilisé la poudre déjà pour des grenades, déjà au 11e siècle. Par contre, pour les canons, il faut attendre la fin du 12e siècle. Et donc, comment s'était fabriquée cette poudre? Ça, c'est une poudre uniquement pour exploser.
Oui.
D'accord? Donc, on peut concevoir que, à partir de l'emprunt chinois, parce que les Chinois, nous savons, sont les premiers à avoir découvert la poudre qui fait exploser des pétards ou des feux d'artifice. Mais par contre, ce que vont faire certaines armées musulmanes, ils vont trouver la formule chimique de la poudre qui va lancer des boulets de canon. Ça, c'est différent parce que une poudre qui lance des boulets de canon doit avoir un dosage, une puissance telle que sa force peut entraîner avec une vitesse
déterminée. Là, c'est tout le génie chimique.
Alors là, maintenant, ce n'est plus de la technologie, du fer, de l'acier, du sabre, etc., des fusées au pétrole. C'est l'intervention de la chimie dans le génie militaire. Et alors, donc là, on voit que dès 1204, un canon est utilisé par l'armée almohade. Figurez-vous que c'est au Maghreb, hein, au siège de Mahdiya. Au Maghreb. Ça aurait commencé au Maghreb. En fait, ça a commencé en Orient avec les grenades. Mais là, pour le lancer de boulets de canon, c'est au Maghreb. En 1260, l'utilisation d'un canon léger par le corps de cavaliers de l'armée mamelouk contre les Mongols à la fameuse bataille de Ain Jalut. Or, cette fameuse bataille, c'était elle qui a permis de stopper l'invasion mongole, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à Damas. Et là, on a l'impression que parmi les éléments, les causes de la victoire des armées des Mamelouks sur les Mongols, il y a un aspect technologique qui était protégé par le secret. En 1274, nous revenons au Maghreb. C'est pas très loin, vous voyez, tout est dans le même siècle. L'armée Mérinide, c'est une dynastie du Maghreb extrême, hein, la capitale est Fès, utilise des engins à poudre à canon au cours du siège de Sijil Massa. L'information est donnée par quelqu'un de très sérieux qui, en général, est crédible. C'est Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun.
Oui.
Moi-même, je l'ai testé dans sa crédibilité quand il donne des informations sur des mathématiciens qui étaient inconnus. Et j'ai découvert des manuscrits d'ouvrages qu'il était le seul à avoir signalé. Et moi, on ne m'a pas cru à un moment donné. Et j'ai découvert le manuscrit. Et donc, Ibn Khaldoun a raison. Et il donne l'information à la page 967 de sa Muqaddima. Et ça passe comme ça. Et personne ne l'a cru, même les grands spécialistes européens. Puis un jour, moi, je l'ai cru au départ. Parce que j'ai une culture, hein, une profonde culture de cette civilisation. J'ai dit, ce monsieur est crédible. Parce qu'on l'a testé. Parce qu'il a donné des informations qui, avec le recoupement, montrent qu'il est crédible. Et bien, pourquoi il ne serait pas crédible pour la science? Je l'ai testé. Je dis, Ibn Khaldoun est crédible pour la science. Et là, nous disons, il est crédible pour l'information sur les canons. Et la dernière information, vous allez être étonné. Voici une technologie qui, normalement, fait gagner toutes les batailles. La dernière, c'est en 1324. C'est l'armée de Grenade, la petite ville de Grenade, qui utilise le canon lanceur de boulets. Ce n'est plus des boulets en pierre, c'est des boulets plus légers, des boulets en fer, mais qui sont plus désastreux. Pourquoi? Parce que les boulets deviennent rouges.
Donc ils sont incandescents.
Donc ils ont des conséquences plus néfastes pour l'ennemi. Eh bien, ils l'ont utilisé au siège d'une petite ville qui s'appelle Ishkar, en Andalous. Et l'information est donnée par quelqu'un qui est aussi sérieux qu'Ibn Khaldoun. C'est son ami d'ailleurs. C'est Ibn al-Khatib, l'Andalousie. Cela dit, vous voyez bien que ça attire une réflexion, qui est que, à un moment donné de l'histoire de l'Empire musulman, malgré le fait qu'ils détenaient une arme puissante, eh bien, ils n'ont pas pu maintenir leur pouvoir en Espagne musulmane, parce que d'autres facteurs beaucoup plus sérieux, des facteurs politiques, des facteurs idéologiques, des facteurs économiques, n'étaient pas en place pour aller aider, soutenir, justement, cette innovation technologique qui aurait pu les maintenir en Espagne musulmane. Donc la technologie, quelle que soit sa puissance, ne suffit pas pour résoudre les problèmes de la société.
Un exemple que l'on peut voir à travers l'histoire de l'humanité depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Et ce soir, eh bien, je le disais au début et je vais le répéter, vous nous avez fait gagner la guerre de l'information en nous dévoilant une fois de plus une autre facette de ce génie des sciences arabes, des savants arabes, des chercheurs arabes, des ingénieurs arabes qui ont donc mis au point toutes ces techniques qui nous étonnent. Et comme le dit si bien Samia Chaudhry, étonnante de modernité.
Absolument. Je précisais juste qu'il ne s'agit pas que des arabes.
Oui,
mais
oui.
On les appelle communément les Arabes.
Voilà, on l'avait expliqué le jour où on a fait l'émission en direct, c'était le 11 avril dernier.
Mais j'insiste toujours parce que peut-être qu'un auditeur n'a pas écouté les premières émissions. C'est un nom générique pour dire les musulmans et même les citoyens, tous n'étaient pas musulmans. En tout cas, une civilisation a produit des scientifiques, des ingénieurs, des militaires, des poètes. C'est une civilisation dans toute l'acceptation de sa plénitude et du sens d'une civilisation. Et y ont contribué tous les citoyens qui avaient telle ou telle capacité, quelle que soit leur situation, leur lieu, et en particulier le Maghreb, a participé à cette superbe aventure technologique et scientifique.
Et humaine aussi.
Et humaine, absolument. Oui, absolument.
Et humaine aussi. Eh bien, merci pour la précision donnée par le professeur. Là, on voit un petit peu, hein, je dirais, aussi votre côté très technique. Eh bien, professeur Djebbar, merci une fois de plus. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine dès 18h15 pour continuer notre belle aventure autour de l'âge d'or des sciences arabes. Bonne soirée, bonne semaine.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebbar. Présentation Dalila Smaril. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.